Allons prendre quelques nouvelles mises à jour sur les négociations entre l'Association des joueurs et les propriétaires. Martin McGuire avec nous. Salut Martin.
Salut Jérémy. Si la journée d'aujourd'hui n'avait pas été si ordinaire dans le camp des propriétaires et des joueurs, je te dirais ceci. Quand M. Legault a dit que le 1er de l'an, on resterait à la maison et qu'on regarderait le bye-bye, moi, la réflexion a été la suivante. Peut-être qu'on restera à la maison pour regarder un match canadien Maple Leafs.
Oh, que oui. Ça aurait été. Peut-être. On ne sait pas. Peut-être.
Le premier de l'an, on ne sait pas.
Peut-être.
Mais la journée d'aujourd'hui a été un peu moche, Jérémy.
Bon, raconte-nous qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui.
Écoute, essentiellement, là, ce qui a été échangé hier, là, ce sont deux propositions qui ont été déposées sur la table par les propriétaires. Deux scénarios que les joueurs n'aiment pas beaucoup. Mais peut-être qu'éventuellement, ils devront s'y résilier parce qu'ils veulent jouer, Jérémy. Les joueurs sont déterminés à jouer. Les propriétaires veulent que cette ligue-là reprenne ses activités le 1er janvier. Mais visiblement, il va y avoir encore des sacrifices importants qui vont devoir être faits pour les joueurs. Et quand je dis des sacrifices importants, j'aime toujours apporter une certaine mesure à tout ça. Les gens qui nous écoutent et qui vivent les contre-coups de la COVID se disent « bof, les sacrifices ». Mais quand je parle de sacrifices par rapport à leur marché à eux et par rapport à la convention collective qu'ils ont signée pas plus tard qu'au mois de juin dernier. C'est dans ce sens-là que je parle de sacrifices. Alors, dans la première proposition, qui est une proposition qui n'est pas très populaire au moment où on se parle, il y a un 20%, ça on s'en est parlé hier, Jérémy, il y a un 20% du salaire qui serait différé. C'est-à-dire que de la paye des joueurs de cette année, de la prochaine saison 2021, il y a un 20% qui leur sera remis un peu plus tard, et ce, sans intérêt. Assorti à ça, ça c'est le bout que les joueurs ont de la misère à avaler, c'est une fiducie de 25%. Une augmentation de 5% par rapport à ce qui avait été signé lors de la convention collective, l'entente de la fin du printemps, début de l'été. Cette entente-là disait d'un montant de 20% en fiducie, et ce montant-là, Jérémy, allait en décroissance jusqu'à la dernière année de la convention, une convention de 6 ans qui amenait à un faible taux de 6%. L'autre proposition, les propriétaires accepteraient de garder le système de fiducie comme il l'est, de le garder intact jusqu'à la fin de l'entente, mais dans les deux dernières années de l'entente, il y aurait des modifications, entre autres à la dernière année, au lieu de 6%, on placerait 8% en fiducie. Mais, pour ne pas toucher à la fiducie, les joueurs mettent quand même quelque chose d'assez considérable sur la table, selon ce qu'ils considèrent, bien évidemment. Parce qu'à ce moment-là, Jérémy, on demanderait pour la prochaine saison de différer 26% de leur salaire. C'est quand même important. Et ça, bien sûr, il faut ajouter le 20% qui serait placé en fiducie. C'est donc dire que, avec ce scénario-là, les joueurs de la Ligue nationale joueraient 146% de leur salaire pour la saison 2021.
Il faut juste mentionner, il y aurait quand même 26% qui leur appartient toujours, sauf qu'ils ne seront pas payés cette année. C'est ça la différence.
Mais il y a un courant de pensée depuis quelques heures au sein de l'Association des joueurs, un courant de pensée qui fait en sorte que beaucoup de joueurs sont sceptiques sur les possibilités de revoir leur argent en entier, Jérémy. Et je pense que on ne peut pas vraiment leur en vouloir, parce que quand tu signes une convention, je sais que la convention a été signée dans l'espérance d'avoir une reprise des activités en novembre, et peut-être une reprise un peu trop pessimiste, parce qu'à l'époque, on se disait qu'en novembre, on pourrait accueillir des spectateurs dans les arénas. On est aujourd'hui en novembre, et il n'y a pas de relance encore, il y a une possibilité pour le 1er janvier, et il n'y a pas de spectateurs pour les tourniquets, au moins, jusqu'à la fin du mois de février, dans la plupart des marchés de la Ligue nationale. Et là, je suis conservateur quand je parle de la fin février. Sauf que les joueurs, quand ils regardent ça, ils se disent, est-ce que vraiment la Ligue nationale aura regarni suffisamment ses coffres pour nous redonner notre argent? Il y a beaucoup de scepticisme actuellement dans le camp des joueurs par rapport à ça.
Moi, Martin, je peux comprendre, honnêtement. Je peux comprendre la crainte de certains joueurs parce que quand tu as signé une convention collective et tu décides de réouvrir la convention collective, quelques mois à peine, quand tu as signé en juin puis tu arrives au mois de novembre, tu veux réouvrir ça, je peux comprendre qu'il y a de l'incertitude. Maintenant, est-ce qu'il y a moyen, puis là, on ne commencera pas à négocier sur la place publique, mais je lance dans la conversation, là.
Oui.
Est-ce qu'il n'y a pas moyen de garantir ce retour-là du salaire reporté du côté de la Ligue nationale pour dire on vous le garantit? Exemple, Seattle va nous donner, à tous les propriétaires, va nous donner un montant d'argent. Bon, bien, une portion de cet argent-là qu'on gardera en fiducie. Et tant aussi longtemps que vous n'êtes pas remboursé, bien, on pourra toujours aller piger là-dedans s'il y avait quoi que ce soit.
Il y a deux choses là-dedans, Jérémy. Il y a effectivement des garanties qui peuvent être données et il y a des moyens d'offrir des garanties plus que de dire « je vous promets que » et même plus qu'une signature d'engagement. Il y a des moyens pour ça d'offrir des garanties, là, des choses très concrètes qui peuvent donner des garanties. Ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Cependant, les propriétaires n'en ont pas plus de garanties de leur côté.
Mm-hmm.
Parce qu'actuellement, là, je rappellerai qu'il y a quand même quelques équipes qui disaient on est bien mieux de mettre la clé dans la porte puis de revenir seulement en octobre 2021. Alors ça, c'est vous dire à quel point les finances de certains autour de la table sont en très mauvais état au moment où on se parle. Et ça, je pense que les joueurs ont raison d'être inquiets de ça. Ultimement, Jérémy, on sait tous que si les joueurs veulent jouer, et c'est le cas, les joueurs n'ont pas l'intention de laisser la saison 2020-2021 sur la table. Du moins, il n'y a aucune indication, dis-je bien, qui nous permet de croire que ça pourrait arriver. Mais les joueurs vont devoir avaler leur pilule et probablement prendre le moins pire des mauvais deals qu'ils vont avoir sur la table. Et là, je parle de leur perception à eux. C'est pas ma perception à moi, mais c'est leur perception. Et du côté des propriétaires, ben, je pense qu'ils espèrent, avec ces mesures-là, notamment un 26 % de salaire plus, parce que, tu sais, l'an prochain, on sait, Jérémy, là, que pour la prochaine saison, là, la 21-22, on sait qu'il n'y aura pas 5 milliards de revenus dans la cagnotte. C'est clair, là. Il va y avoir des contre-coups de la COVID. Si on est capable de recommencer des activités avec un vaccin, là, à l'automne 21, c'est-à-dire qu'on remplit de nouveau les arénas, tu sais, probablement que les marchés chauds de la Ligue Montréal, Toronto, New York, ça devrait assez bien aller. Mais il n'y a pas de garantie, Jérémy. Et honnêtement, là, moi, je serais très surpris que cette saison-là, cette première saison complète-là, qui va comprendre une pause olympique, sera une saison de revenus de 4-5 milliards, comme ça a été le cas en 18-19, la dernière saison complète.
Non, ça, c'est
alors, les joueurs, quand ils voient 25 % du fameux escrow, de la fiducie, eux, là, ils savent pertinemment que cet argent-là ne leur reviendra pas tout de suite.
Ben, écoute, la base d'une négociation, selon moi, c'est une relation de confiance que tu dois établir avec la partie adverse, en partant.
Ça, c'est clair.
Donc, si tu brises cette relation de confiance-là, ça devient très difficile d'aller chercher quoi que ce soit, malgré le fait que, de part et d'autre, on sait, on n'a pas le choix de jouer. Pour le marché, pour l'évolution du marché, pour les
Absolument.
Années à venir, tu ne peux pas briser le momentum présentement. Ça, c'est la. Je pense que l'ensemble des experts qui regardent ça, tout le monde se met d'accord pour dire tu dois jouer cette saison. Maintenant, de quelle façon on va le faire? Et surtout, combien de plumes et les proprios et les joueurs vont perdre? C'est ça qu'on est en train de définir présentement.
Ben, écoute, puis j'aime bien utiliser cette expression, tu le sais, comme les gens de Valleyfield disent, « clock is running ».
Oh, ben oui.
Parce que écoute, normalement, là, puis j'écoutais avec beaucoup d'intérêt aujourd'hui les propos de Pat Brisson avec nos amis La Tendresse et la Pierre de La Poche Bleue. Puis, tu sais, Brisson, agent de joueur influent qu'il est, là, disait notamment, tu sais, que dans des circonstances comme ça, il y a beaucoup de communication de coulisses qui se font. Puis les dirigeants de la Ligue appellent certains agents, des agents influents, dont lui, pour avoir le pouls. Alors, tu sais, probablement que les deux propositions qu'on a sur la table, là, ben probablement que notre ami Brisson a eu vent de ça. Puis d'autres agents très influents dans la Ligue ont eu vent de ça. Les propriétaires, la Ligue, on a pris un peu la température là-dedans. Alors, tu sais, quand Pat Brisson dit, j'ai des bonnes raisons de croire qu'on pourrait avoir une entente d'ici 4-5 jours, ben probablement que ces 4-5 jours-là vont servir à avaler la pilule du côté de l'association des joueurs.
Et il y a des proprios, Martin, qui vivent des moments difficiles. J'en parlais tantôt avec Mario Landlois.
Oui.
Je faisais référence à Jeremy Jacobs, propriétaire des Bruins de Boston. Lui,
qui est encore dans le camp des purs et durs. Hein,
exactement, parce que ses business à l'extérieur des Bruins éprouvent beaucoup de difficultés. C'est ouais. Delaware North Hospitality and Gaming
oui.
qui connaît des pertes. Écoute, on a recensé avec Yahoo Business, pas facile, Yahoo. Yahoo Business, les 12 propriétaires de sport qui ont perdu le plus d'argent, là, et pas juste avec leur franchise, mais à l'extérieur, ouais. dans leur autre business. Et Jeremy Jacobs et Bruins arrivent au troisième rang, ont perdu 600 millions. Sa valeur, écoute bien, sa valeur était aux alentours, au 18 mars, de 3,2 milliards de dollars. Et au 4 novembre, elle est descendue à 2,6 milliards de dollars. Ça,
voilà.
C'est qu'est-ce que lui vaut à l'extérieur des Bruins. Les Bruins, ça va bien, mais ses business à l'extérieur, j'entendais Ray en parler, Ray Lalonde, lui fournit la nourriture dans les amphithéâtres et des choses comme ça. Il n'y a pas personne. Il fait qu'il
la nourriture va pas sortir des frigos.
Exact. Et,
non, puis évidemment, puis tu fais bien de le mentionner, Jérémy, parce que, tu sais, depuis à peu près là, 2 semaines là, qu'on se parle de tout ça, du retour, là, j'aime bien la ligne de Danny quand Danny disait « Les riches sont moins riches, alors imaginez les plus pauvres. »
Clairement.
Je parle des équipes de la Ligue nationale quand je parle de ça. Alors, tu sais, M. Jacobs est un bel exemple avec ses entreprises de riches, moins riches. Je pense qu'ici à Montréal, on en a un bel exemple. Le groupe CH, actuellement, ne peut pas aussi bien se porter qu'il se portait il y a 2 ans. Ça, c'est clair, là. Les pertes sont importantes. Les pertes sont sèches, elles sont dures. Elles sont drastiques depuis le 12 mars dernier. En même temps, tu sais, Les gros marchés, Jérémy, ont des activités immobilières qui leur ont quand même permis d'avoir un bon bas de laine. Et là, c'est sûr que sans les revenus des activités sportives de leur franchise et des activités spectacles pour le Canadien, pour le groupe CH, c'est sûr que là, ils sont obligés d'aller fouiller dans le bas de laine. C'est le cas de beaucoup de propriétaires. Et le cas de M. Jacobs n'est pas unique, là. Il y a des propriétaires de la Ligue nationale, Jérémy, dont un des gros investissements hors sport professionnel est l'hôtellerie. Ça va-tu bien, l'hôtellerie, à ton goût?
Pas du tout, non.
Les hôtels sont vides partout. Partout à travers la planète, les hôtels, les sites de vacances, il n'y a personne. On est en pandémie. Alors, c'est sûr, Jérémy, que les propriétaires actuellement vivent des problèmes d'argent. Mais en même temps, les joueurs, eux, regardent ça puis se disent, mais on en a signé un deal qui devait justement faire en sorte de mettre à l'abri les propriétaires des problèmes. Moi, je pense que les propriétaires ont peut-être mal anticipé l'ampleur des problèmes qui s'en venaient. Est-ce que là, je fais un petit peu le Monday morning quarterback, probablement, quand je lâche une phrase comme ça, mais c'est inévitable, Jérémy, pour qu'on en ait à rouvrir de nouveau une convention collective comme ça, c'est parce que la tempête, ils ne l'ont pas bien anticipée. Alors que les gens de santé publique nous disaient, avec beaucoup de sagesse, mais beaucoup de fermeté, que l'automne ne serait pas facile.
Exactement. Mais là, je pense qu'il faut, dans un premier temps, peut-être... et tu sais, avant de voir l'an 3, l'an 4, l'an 5, l'an 6 de tout ça, il faudrait peut-être juste voir qu'est-ce qui va se passer au mois de mars prochain, avoir les lunettes du mois de mars, voir la vaccination, comment ça peut se passer. Puis à partir de ça, voir les différentes options qui s'offrent. Et là, à un moment donné, c'est parce qu'il faut que tu t'entendes. Il faut que tu trouves le moyen de mettre les gars sur la patinoire.
Il va en avoir une entente.
De façon sécuritaire, en plus.
Jérémy, il va avoir une entente. Il va avoir une entente, là. Écoutez, tu sais, je répète encore une fois, ils vont s'entendre avec une mauvaise entente, mais ils vont s'entendre parce qu'ils n'ont pas le choix. Les joueurs n'ont pas le choix de jouer, ils ne veulent pas laisser sur la table ne serait-ce que moins de 60 % de leur paye pour la prochaine saison, et les propriétaires n'ont pas le moyen d'arrêter complètement les activités parce que les conséquences pourraient être encore plus dramatiques pour la prochaine saison, l'autre et l'autre qui suivra. Il faut absolument occuper l'espace. La morale de cette histoire, c'est que comme la Ligue nationale est une ligue qui dépend presque majoritairement pour à peu près 3 milliards de dollars sur une assiette de revenus de 5, là, des tourniquets, de la vente de billets directement, de la vente de bière, de hot dog, de chips et de popcorn. C'est une ligue qui est obligée de serrer la vis avec ses joueurs et de rouvrir une convention collective qui avait été dûment signée. Parce que si on était dans une situation, ne serait-ce que d'avoir les deux tiers, ne serait-ce que les deux tiers de l'entente de télévision nationale que la NBA a, on n'aurait pas besoin de faire le bras de fer qu'on est en train de faire actuellement.
On n'est pas dans la même situation. Martin, en terminant, peut-être nous dire en prolongation, samedi, qui sera à l'émission avec Danny, parce que demain, il y aura un match de l'Impact. On sera en réaction par la suite à ce match de l'Impact. Dis-moi, qu'est-ce que vous aurez à l'émission samedi?
Ah, écoute, on vous promet une émission quand même assez intéressante, mon cher Jérémy, du moins je l'espère pour nos auditeurs. Vous savez qu'il y a quelques jours à peine, une première femme obtenait le siège de directeur général dans le baseball majeur. Mm-hmm. On va explorer ce sujet-là en compagnie de Sylvain Guimond. Sylvain Guimond est un spécialiste de sport, mais d'abord et avant tout, un spécialiste de l'humain. Et Sylvain Guimond a fait paraître un livre il n'y a pas tellement longtemps qui traite de la différence, Jérémy. Et on sait que c'est pleinement d'actualité, là, parce qu'en plus d'avoir une femme qui a accédé au haut niveau décisionnel de sport dans le baseball, il y a aussi une équipe de la Ligue nationale qui, pour la première fois, a ouvert les portes d'un bureau de direction à un homme de couleur, les Panthers de la Floride, qui ont embauché M. Peterson, qui agira comme directeur général adjoint. Alors, tu sais, il y a des sujets intéressants à développer avec Sylvain. Puis on tentera de voir, justement, comment le hockey pourrait davantage faire de place aux gens qui représentent la société dans laquelle on vit maintenant, Jérémy, une société pleine de différences. Alors, on va jaser de ça. Gilles Courteau va nous parler de la bulle, parce que la JMQ est en pleine bulle. Et honnêtement, Jérémy, c'est vraiment, là, j'appellerai pas ça un coup de circuit tout de suite, parce que c'est pas fini, là. Mais si la tendance se maintient, comme dirait l'autre, je pense que la Ligue va faire un très bon coup avec cette bulle à Québec qui a cours jusqu'au 27 novembre. Alors, le commissaire sera avec nous. Et on va également jeter un œil sur un sondage que nos collègues de athletic.com viennent à peine de publier. Il est chaud, chaud, chaud. C'est un sondage qui a été fait auprès de milliers d'amateurs du Canadien au Québec. Et on va parler de la perception qu'ont maintenant les amateurs envers leur équipe préférée, la direction de l'équipe, les joueurs de l'équipe. Alors, c'est en gros le menu qu'on vous réserve pour samedi, 16h.
C'est un rendez-vous, on vous écoutera évidemment. Martin McGuire, merci d'avoir été avec nous.
Bonne émission, Jérémy.
Merci, au revoir. On s'arrête quelques instants et au retour, on fait un résumé complet de ce qui se passe présentement dans le monde du sport.